Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue en Suisse au Salon du Livre de Genève. Nous allons vous faire vivre cet événement avec le public de Genève. Bonjour à tous. Et bien sûr, avec les invités francophones présents, une rencontre exclusive, une avant-première et un voyage en Alaska. C'est l'un des plus gros événements culturels et littéraires de ce printemps. Romain Puertolas revient avec son fakir coincé dans une armoire Ikea pour un film et une suite. Le film réalisé par le Québécois Ken Scott sort dans un mois en France et les nouvelles aventures du fakir seront publiées le 2 mai. Bonjour Romain Puertolas.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Très bien.
Vous êtes ici à Genève et dans la librairie francophone en avant-première pour cette double actualité. Vous aviez imaginé un tel succès avec cette histoire loufoque, vous ?
Non, je n'avais pas imaginé ce succès-là. Je l'avais écrit sur mon téléphone portable dans le RER en allant au travail.
C'est
je n'avais pas imaginé qu'il y aurait une suite. Là, ouais. Je suis sur le Fakir 3. C'est devenu une trilogie, finalement.
Ah, carrément. On n'en est pas là encore.
Carrément.
On va parler du 2, déjà.
Voilà, bien sûr.
Romain Puertolas, que vous pouvez applaudir, qui est avec nous. Donc ici, en avant-première, autre événement. Cette rencontre que nous organisons autour de New York, l'un des thèmes de cette édition 2018 de ce Salon du Livre, l'écrivain à succès Marc Lévy et la grande auteure Catherine Cusset sont avec nous pour un entretien croisé exclusif. Et puis nous partirons en Alaska sur un bateau pour une initiative très originale. Sylvie Cohen vous racontera comment elle a proposé à des auteurs, dont le célèbre Pierre Crevoisier, d'écrire des nouvelles au cours de ce voyage.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont avec nous ici en Suisse, mais aussi en multiplex à travers le monde. Deux libraires en plateau, Jérémy Laniel pour le Canada, libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Oui, on peut l'applaudir, Romain vous applaudit, mais il a raison. Que faites-vous ici, Jérémy?
Vous savez, Montréal, New York, c'est pas très loin, donc je rentre quand même dans la thématique et le stand de Québec Édition est toujours là, donc ouais. Je viens mettre dans les mains des livres québécois aux lecteurs suisses.
D'accord.
Qui sont très curieux. Hein.
Montréal, New York, vous êtes à Genève, là, vous savez.
Oui, je sais, d'accord. Mais c'est la thématique.
c'est vrai. Bonjour Laura Sanchez.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire ici à Genève, dans la librairie du Boulevard, on va vous applaudir aussi. Merci d'être avec nous sur ce plateau de la RTS. Et pour représenter la France, c'est Sophie Todescato qui est en duplex de la flamboyante ville d'Orléans. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez la librairie Les Temps Modernes et en Belgique, on retrouve la belle Déborah Damblon. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Mais très bien, très des mots pareils.
Dans la librairie La Licorne. Ce week-end, c'est la fête des librairies indépendantes en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. 480 librairies participent à cette 20e édition. Ils font donc encore et toujours plus ce week-end acheter vos livres dans une librairie indépendante. Et pour fêter ça, deux de nos libraires en plateau, ici à Genève, vous racontent une histoire étonnante liée à leur métier de libraire. Nous verrons d'ailleurs si les invités ont une petite anecdote sur des librairies, des signatures en librairie. Réfléchissez. Catherine Cusset, Marc Lévy, Romain Puertolas qui est en plateau. On commence avec vous, Laura Sanchez.
D'accord.
Qu'est-ce qui vous est arrivé d'incroyable?
Alors, c'était par une tranquille après-midi d'été. Entre dans la librairie un groupe d'hommes habillés de manière très élégante. Alors, ils flânent, ils choisissent des livres, des piles de livres, nous demandent des cartons, remplissent un, deux, trois cartons, des livres d'histoire, de sociologie, d'économie, de critique des médias. Alors, nous, on commence à se demander si c'est une technique de braquage dont on n'aurait pas encore entendu parler. Et au bout du cinquième carton, j'ose une question. Alors, en espagnol, parce qu'aucun de ces messieurs ne parle français. Qui êtes-vous? Et là, surgit un xième homme élégant qui m'explique dans un français impeccable, car il est du coin, qu'il travaille pour l'ambassadeur d'un petit pays d'Amérique centrale, que ce monsieur s'intéresse à énormément de choses et qu'il lit en plusieurs langues.
Ah oui.
Donc voilà, il me tend une carte de crédit comme on n'en voit jamais en librairie. Vous savez, ces cartes de crédit toutes noires avec aucune inscription dessus.
Ah non, je connais pas.
Eh ben voilà, moi j'avais jamais vu ça.
Pas
donc
encore.
Il règle la note.
Puertolas peut-être, mais.
Peut-être, vous direz. Donc il règle la note en une seule fois, comme ça une note que vous imaginez évidemment un peu élevée.
Oui.
Et voilà, et nous on a fait notre journée.
Formidable. C'est le rêve d'un libraire, vous savez.
Absolument.
Ça.
Absolument. Et là ils ont nettoyé les rayons.
C'est vrai qu'il y a des libraires qui rêvent de ça vraiment, qui nous racontent qu'ils rêvent qu'on leur dévalise la librairie. Vous l'avez pas rêvé, vous êtes sûr, c'est une vraie
histoire. Ça nous est arrivé pour de vrai.
Jérémy Laniel au Québec, vous.
Dans une toute autre ordre d'idées, j'avais fêté avec des amis le vendredi soir et je travaillais à la librairie le samedi matin. C'était couché à 4h du matin, soirée assez alcoolisée.
Ah, bravo!
Voilà, ben, c'est des choses qui arrivent. Hein. Je vais défaire le mythe, ça arrive que vos libraires ne sont pas excessivement frais samedi matin. Et donc, je pousse la porte de la librairie et je vois la tronche d'un politicien et j'animais une causerie avec lui cette journée-là. J'avais complètement oublié ça. J'avais rien préparé. Et à 13h, il arrive. Je suis encore complètement dans les vapes. Je fais l'entretien avec lui. Je crois que j'ai bu ma bouteille d'eau dans les premières 5 minutes de l'entretien. Et je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit, mais plus tard, un mois plus tard, les éditeurs m'ont dit que c'était le meilleur entretien qu'ils avaient fait avec ce député politique pour son livre. Alors, je ne sais pas comment ça s'est viré, mais voilà.
Voilà, bravo. Hein.
Ben oui, il le faut.
Les librairies indépendantes, voilà ce que ça donne.
Je suis à jeun aujourd'hui.
Ben, j'espère bien. À boire avec modération, l'alcool, je le rappelle. Marc Lévy, Catherine Cusset, une histoire, une anecdote rapide sur une librairie, non? Une signature incroyable, Romain?
Non, là, on peut pas surpasser ce niveau-là. Hein, impossible.
C'est pas possible.
Non, moi, c'est assez quotidien, normal. C'est pour ça que dans mes livres, je suis obligé d'inventer des choses incroyables, parce que ma vie est assez banale.
À Catherine Cusset. Bonjour, Catherine.
Bonjour, j'étais à Nice il y a 2 jours, et c'était une rencontre assez étonnante, parce que la climatisation ne marchait pas. Ils avaient mis 30 personnes dans la librairie et 30 à l'extérieur. Et moi, j'étais à la porte entre les deux. C'était vraiment assez étonnant, chaud, froid, enfin. Voilà, c'était magnifique.
Et vous n'êtes pas enrhumé aujourd'hui?
L'Acropole à Nice, très jolie petite librairie.
Oui, c'est vrai que je connais et qu'on salue. On salue tous les Niçois qui nous écoutent. Merci Catherine.
Mon nom est Ajata Chatrou, la vache Patel.
Approchez, venez voir le célèbre Aja.
Quand j'étais jeune, je ne savais rien du tout du reste du monde. Et un jour, j'ai reçu la mauvaise nouvelle.
Maman!
Maman, je t'emmène à Paris. L'amour à Paris est 10 fois plus fort que n'importe où sur Terre. Entre Marie et moi, le courant est passé immédiatement. Je lui ai tout dit de l'Inde. Le hasard fait tout. On joue avec les cartes qu'il nous distribue.
Aja, c'est toi seul qui es le maître de ta vie.
Vous êtes tous des clandestins?
Et pas toi?
Je suis un touriste.
Qui voyage dans une armoire?
Dans un mois sort le film L'extraordinaire voyage du fakir, adapté de votre roman, Romain Puertolas. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, titre à rallonge. C'est le réalisateur québécois Ken Scott qui l'a réalisé. Génial Ken Scott, à qui l'on doit d'ailleurs le film Starbuck, un film canadien époustouflant, l'un de mes préférés d'ailleurs. Vous l'avez vu terminer ce film, ça y est?
Oui, je l'ai vu terminer il y a à peu près un mois. Oui. Merveilleux. J'ai pleuré, j'ai rigolé. Vraiment beaucoup d'émotions. Vraiment, je suis très content du résultat.
Et il y a la participation de Gérard Jugnot.
Il y a Gérard Jugnot.
Qui nous avait dit d'ailleurs au Salon du Livre de Paris qu'il participait au film il y a quelques semaines, au mois de mars.
Il faut savoir que la version originale est en anglais. Alors Gérard Jugnot,
oui, il m'a dit.
Qui a un texte en anglais, c'est merveilleux. Allez voir la version originale.
C'est formidable. La musique, en tout cas, est très réussie. Ouais. Ça commence très fort avec cette bande-annonce. Alors, votre premier roman s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, Romain. Il a été traduit dans le monde entier. La semaine prochaine, donc le 2 mai, votre nouveau roman, Les Nouvelles Aventures du Fakir au pays d'Ikea, sort chez Le Dilettante. Vous nous le présentez ici en avant-première. Votre fakir est donc devenu riche. Il vit en France. Il s'est embourgeoisé. Et il ne peut plus se regarder dans la glace au sens propre.
Oui, c'est un peu ça. Voilà, on est juste après le Fakir 1, on va dire. Il est devenu écrivain à succès. Il passe ses journées, ses matins à regarder Télématin à la télé. Il ne sort plus. Il a écrit un petit livre dont il est assez content. Et il habite dans le 16e arrondissement, dans un bel appartement. Et il envoie son manuscrit à son éditeur et il s'attend à recevoir des louanges sur ce manuscrit. Son éditeur dit vraiment, c'est pas bon.
Voilà. Il fait 14 pages le livre.
Il fait 14 pages en plus, voilà. Mmh. Et il dit, c'est vraiment pas bon. Et donc, ça va être le début. Il va falloir qu'il retrouve son âme de fakir un petit peu qu'il a perdu et repartir à l'aventure.
Après son parcours de l'Inde vers la France dans le premier tome, il va partir en Suède pour rencontrer le patron de la célèbre marque. Ingvar Kamprad, qui est mort le 27 janvier dernier. D'ailleurs, c'est un bel hommage malgré vous, Romain. Mais...
Malgré moi, le livre était déjà écrit. Alors, il n'était pas parti à l'imprimerie. Donc, en fait, j'ai changé des choses. Dans le livre, il s'appelait au début Ingvar Kamprad. Je l'ai changé en Ingmar Cartable. Et puis, j'ai changé un petit peu l'hommage. Au début, il y avait une dédicace un petit peu marrante sur lui. Et j'ai changé un
Vous avez adouci un peu ?
J'ai adouci un petit peu, voilà. Oui. Ouais. Parce que bon, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne voulais pas être non plus très, très grossier. Mais voilà.
C'est bien, c'est classe. Donc, c'est élégant. Voilà. Bon, voici en avant-première un extrait pioché dans les premières pages. C'est la grande auteure Catherine Cusset qui est face à vous. C'est une surprise pour vous, Romain.
Ah oui, c'est une surprise.
Qui va lire ce passage. Quand on sait qu'elle vit aux États-Unis et qu'elle voyage à travers le monde pour ses livres, ce texte, vous allez l'entendre, soyez attentifs, va prendre tout son sens. Et on a une petite musique indienne pour introduire tout ça. À tout le monde.
Enfant, Ajata Chatrou s'était juré qu'un jour, il gagnerait tellement d'argent qu'il pourrait s'acheter un meuble Ikea. Il prenait conscience à présent de la vacuité de cette ambition. Quand on est riche, on n'achète plus de meubles chez Ikea. Depuis qu'il était devenu écrivain à succès, ou plutôt écrivain d'insuccès, il s'était réfugié dans sa petite bulle. Il ne voulait plus entendre parler des attentats djihadistes, de la crise, de Donald Trump, de toutes ces misères que distillent en boucle les journaux télévisés et qui nous font penser que nous vivons vraiment dans le plus moche des mondes. Il pensait que Bachar al-Assad était un personnage du livre de la jungle, le Brexit, un modèle de soutien-gorge, et l'indépendance catalane, un dessert. Bref, Ajata Chatrou vivait heureux dans le plus joli des mondes. Quand d'autres illustres auteurs passaient leur temps à voyager de salon du livre en festival, de pays en continent, lui ne bougeait plus de chez lui.
Merci Catherine Cusset, magnifique lecture.
Oui, merci beaucoup. Et bravo pour Ajata Chatrou, vous avez prononcé merveilleusement.
C'est vrai que c'est pas simple. Moi, je l'appelle Aja, ça va être plus simple. C'est complètement loufoque votre livre, Romain Peurtolas. Vous partez dans des délires. Je me suis demandé même où vous alliez vous arrêter. Il y a de très mauvais jeux de mots, plein de références absurdes. C'est Monty Python, ce livre.
Oui, alors c'est marrant parce qu'on me considère toujours, on me fait la référence à Monty Python alors que j'aimais pas du tout Monty Python. Non, donc c'est marrant. Moi, j'étais plutôt Bénil, vous voyez, c'était vraiment l'humour peut-être un petit peu plus basique, on va dire, que Monty Python qui paraissait déjà trop évolué pour moi. Voilà.
Alors vous écrivez des choses un peu, je vais en citer quelques-unes quand même. L'Indien prit conscience qu'il était devenu si riche et si européen qu'il avait troqué Shiva, son dieu, contre Shivas, le whisky. Non,
mais... Ça vous fait pas rire bon.
Le public, oui. En tout cas, le syndrome de Stockholm, ne vous quittez jamais, surtout à Stockholm.
Voilà, oui. Mais le truc, c'est que ça accompagne des moments qui sont beaucoup plus durs, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Stockholm, parce qu'on apprend la jeunesse de Fakir, de cet enfant, parce qu'on a une préquelle et une séquelle. Donc, on revient en arrière quand il a 9 ans et quand il est maltraité par son maître Fakir. Mm-hmm. Et donc, ces petits trucs-là, ils viennent pour des décompresser.
C'est vrai qu'il y a des messages humanistes dans ce livre, Romain, parce que sous ces airs burlesques, Adja porte un regard critique sur le monde et sur notre rejet de l'autre. Le jugement au faciès dont il est victime, la condition des réfugiés. Tout cela est abordé de façon assez intense, je trouve.
Oui, c'est un petit peu une ligne conductrice que je tiens depuis le premier Fakir, dans laquelle j'avais mis mon expérience quand je travaillais à la police aux frontières, justement, et de me mettre à la place de ces personnes, de ces clandestins, et tout simplement me mettre dans leurs chaussures. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis ce moment-là.
On va laisser la parole à nos libraires. Sachez simplement que vous inventez la marque Nespresso, ce qui est quand même particulièrement maladroit ici en Suisse, alors que Nespresso est juste à côté, le siège en tout cas de Nestlé. Merci beaucoup Romain pour toutes ces infos. Les quatre libraires ont lu votre nouveau roman en avant-première, donc je précise, ils ont eu cette chance-là. Le Canada, la France, la Belgique ou la Suède, on commence par qui ? La Suisse, pardon. La Suisse. Qu'est-ce que vous choisissez, Romain ?
La Suisse.
La Suisse, allez, Laura Sanchez, allons-y. Oui,
en libraire suédoise, je prends la parole. Alors, moi d'abord, je confesse que je n'avais pas lu les premières aventures du Fakir, mais je m'y suis quand même retrouvée. Hein. Avis à ceux qui auraient raté le début. Ce livre a la forme d'un roman amusant, avec des situations rocambolesques, phrases enjouées, multiples clins d'œil au milieu littéraire, le tout sur fond d'actualité. Donc ça, c'est la forme. Et le fond, moi, je suis un peu perdue, en fait. Pour moi, il y a un mélange des genres, justement, avec des scènes extrêmement dramatiques. Donc j'aurais aimé savoir, vous, Romain Puertolas, où êtes-vous ?
Et moi, je suis dans le drame, mais édulcoré, en fait. Voilà, je décris la vie telle comme elle est, mais je l'enrobe un petit peu de peinture. Je la peins, je peins, je mets du jaune dessus. Voilà. Les murs restent toujours gris, mais il y a de la peinture dessus. Voilà.
Sophie Todescato, En France à Orléans, c'est un livre qui vous a amusé, je crois.
Oui, ça m'a amusé. Je trouve qu'on y retrouve les mêmes qualités que dans le premier volume, c'est-à-dire avant tout ce qui fait votre marque de fabrique, Romain, c'est-à-dire ce plaisir très communicatif à inventer, à raconter, le goût du détournement, du loufoque, du jeu sur les clichés. Tout ça, ça en fait un roman vraiment très, très divertissant. Alors, avec peut-être une petite réserve au début, c'est peut-être un peu laborieux au démarrage. Et puis, le fakir trouve son rythme de croisière gentiment absurde. Donc, rien de plus, mais rien de moins non plus. Vraiment, le contrat est rempli. On rit et on est diverti.
Bien, Jérémy Lagniel, le plus sévère de tous. Vous me faites peur, rien qu'à vous regarder.
Mais l'ennui avec ce livre, c'est que j'ai lu le premier dans la dernière année. 4 ans trop tard, certains me diront. Mais à la lecture du deuxième tome, j'ai trouvé qu'il y avait de la redite, qu'il y avait de la formule. Je m'y suis malheureusement ennuyé. L'auteur, il est brillant, mais j'ai l'impression que c'est un peu amouraché de son fakir qui, lui, avait plus grand-chose à vivre. Par contre, la finale laisse présager une suite beaucoup plus intéressante.
Ouais, c'est vrai que le final est exceptionnel. Déborah Damblot est en Belgique et elle aussi... Romain, je suis désolé, ça n'y a plus moyen, mais bon, vous avez un succès considérable, hein, on va se rassurer avec ça, mais Déborah, oui ?
Oui, je suis désolée, mais moi j'ai vécu vraiment un grand et long moment de solitude en essayant de me plonger dans votre livre et j'essayais de me raccrocher à des clous, à des vis, à des trucs Ikea, et puis je suis pas arrivée à avancer et j'ai même pas trouvé un mot gentil à vous dire. Et pourtant je suis gentille, Emmanuel peut témoigner. Mais vraiment, ma seule excuse, c'est que je suis complètement et absolument dénuée de sens de l'humour.
Oh, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai du tout. Bon, alors, c'est ce qui est très bien, Romain Puertolas, c'est qu'on leur fait livre en avant-première votre livre, qu'on est ravis de vous accueillir, et qu'il y a deux libraires qui n'ont pas aimé. Bon, 2 sur 4, ça fait le débat.
Mais c'est bien parce que c'est sincère, Romain. Ouais, voilà.
Et puis, c'est le débat culturel, c'est comme ça. Alors, je suis pas d'accord avec eux parce que je trouve qu'il y a énormément de choses dans ce livre. C'est foisonnant. On apprend même certaines choses étonnantes. Bon, j'ai pas tout raconté, mais vous racontez le dénuement. C'est ça qui m'a intéressé, moi. Le dénuement qui est important pour mieux saisir la richesse de la vie. Et vous démontrez, comme ça, votre fakir démontre, avec son histoire et aussi avec ce qu'il vit aujourd'hui, qu'en Occident, on s'encombre trop.
Oui, c'est ça. Le fakir, lui, il est né dans le dénuement le plus grand. Il avait rien et il s'aperçoit que quand on n'a rien, finalement, on n'a rien à perdre. C'est ça. Et plus on possède et plus on a de choses à perdre. Le fakir, au début, ouvre son frigo et voit tout ce qu'il y a dans son frigo. Ouais. Et il se rappelle de quand il était petit qu'il n'avait rien du tout.
Et on lui dit, son maître fakir lui disait en Inde, essaye d'être heureux avec le juste nécessaire.
Voilà,
c'est ça qui est important.
C'est ça qui est important, et ce qui est aussi très paradoxal, puisque le maître fakir essayait de lui quand même lui prendre tout l'argent que le petit gagnait. Il y avait une espèce d'hypocrisie derrière ça, mais en tout cas, les préceptes philosophiques qui piquaient dans des calendriers de la poste indie, il faut dire qu'ils avaient quand même de la profondeur. Il faut chercher la profondeur dans ces termes-là, dans ces paroles, et essayer toujours de faire attention.
Voilà. C'est au moment où il devient riche qu'il perd son identité ?
Pas spécialement riche, mais dans le fait du confort, il s'est relâché, on veut dire. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'est embourgeoisé.
Ouais,
non ? Il s'est relâché, il laisse les choses un peu plus. Il sent plus la transpiration comme il sentait avant, l'arnaque et tout ça qu'il avait et qu'il faisait vivre justement. Il assiste à une espèce de petite mort.
Merci beaucoup, Romain Puertolas.
Merci.
Vous pouvez applaudir, Romain Puertolas, en avant-première. Avant-première pour la librairie francophone, pour les médias donc, mais aussi ici au Salon du Livre de Genève, car vous signez ce livre qui sort seulement la semaine prochaine.
Voilà.
Et les Suisses ont la chance de pouvoir l'acheter dès maintenant.
Ouais.
Voilà, merci beaucoup. Les nouvelles aventures du fakir au pays d'IKEA est paru chez le Dilettante. Il sortira donc le 2 mai en librairie. Merci d'avoir choisi la librairie francophone pour cette avant-première,
merci
Romain.
Beaucoup,
merci beaucoup.
Merci.
Vous restez avec nous à suivre la rencontre Catherine Cusset, Marc Lévy sur le thème de New York, avec ici sur ce Salon du Livre de Genève. Le pavillon New York, hommage à cette ville en ce moment même où nous sommes. Avant cela, voici un duo, le français Aurel San et le belge Stromae dans la librairie francophone. Et on revient ici au Salon du Livre de Genève avec le public qui est avec nous.
Je viens de la France. France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une éclaire dans le monospace. Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Moyen du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer.
Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau.
Orelsan et Stromae, la pluie sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Après une avant-première, une exclusivité, voici une rencontre inédite sur le thème de New York avec Catherine Cusset et Marc Lévy. Bonjour Marc Lévy.
Bonjour.
Comment allez-vous Marc ?
Ça va bien, merci, et vous ?
Ça va, écoutez. Vous êtes en forme ? Vous aimez beaucoup ce Salon du Livre de Genève, je crois.
Ben oui.
Oui.
Pourquoi vous hésitez ? Non, parce que j'imaginais quelqu'un qui dirait non, pas du tout. C'est le genre de question très sincère. Je suis très content de vous voir et vous, ben non, pas du tout.
Vous me l'avez dit l'année dernière, c'est pour ça. Je fais juste un petit rappel. C'est un peu une émission à suivre aussi, la librairie francophone. Bon, Catherine Cusset est avec nous aussi. Votre nouveau roman, Marc, sortira le 22 mai.
Oui.
Là aussi, vous accordez la primeur à la librairie francophone. Merci à vous. Une fille comme elle se déroule à New York sur la 5e avenue et dans le quartier de Spanish Harlem, entre autres. Un immeuble de New York sur la 5e est un personnage à part entière. Et vous dites, à New York, tout est différent. Qu'est-ce qui est différent à New York, Marc ?
La particularité de New York, c'est que New York est une ville qui est composée de 363 communautés et ethnies différentes, avec une vision de l'intégration qui est très différente de ce que l'on peut voir dans toutes les autres grandes villes, y compris d'ailleurs américaines. C'est que l'identité de la ville a pour genèse cette diversité culturelle, ethnique. Mmh. Et donc, être New-Yorkais ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut être New-Yorkais et Sénégalais, on peut être New-Yorkais et Italien, on peut être New-Yorkais
ouais,
et Français.
Ouais. Catherine Cusset, vous vivez à New York depuis plusieurs années.
Depuis 25 ans, mais exactement. Je pensais justement, quand on dîne chez des amis, je pensais à notre amie commune Esther Perel, on va avoir 15 personnes, on va avoir 15 nationalités à table. Et personne qui sera un New-Yorkais de souche, le seul Américain, il y aura deux Américains, un Californien et son mari qui est Géorgien. Quoi. Voilà, ça c'est New York. Tout le monde vient d'ailleurs et tout le monde vient là-bas pour faire quelque chose.
Qu'est-ce qui vous a amené à vivre là-bas, vous ?
Alors moi, j'ai épousé un Américain et j'ai été professeur à Yale et puis on s'est très vite installé à New York, donc il y a 25 ans. Et c'est vrai que être loin de chez moi, de Paris, du milieu littéraire parisien, je pense que pour écrire, c'est quelque chose qui m'aide, qui me donne plus de liberté.
Mais alors, vous êtes bilingues tous les deux et vous écrivez en français. Jamais en anglais, Marc, jamais.
Non, les contraventions, oui, en anglais, mais...
Catherine, jamais vous n'avez
si,
une idée
en fait, si moi j'ai écrit Le problème avec Jeanne, la première version en anglais.
Ah, la première version
comme instrument de travail, pour écrire un vrai roman, il fallait que je me distancie du français. Ouais. Et je l'ai publié en anglais, mais après je me suis rendu compte que j'étais vraiment un écrivain français, que ma langue c'était le français. Alors, mais là, peux écrire en anglais, mais je préfère le français.
Vous publiez La vie de David Hockney aux éditions Gallimard. Il nous emmène ce livre dans le monde de l'art, aux États-Unis justement, avec cet artiste anglais, toujours vivant, David Hockney, qui, lui, va trouver la liberté aux USA. C'est un roman sur la liberté.
Oui, c'est quelqu'un d'extraordinairement libre, David Hockney, qui vient d'une petite ville industrielle d'Angleterre où il est né en 1937. Il a grandi sans savoir ce que c'était qu'un artiste et sans savoir ce que c'était qu'un homosexuel. Et il est devenu un très, très grand artiste. Je veux dire un très, très grand homosexuel. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas, un homosexuel militant.
Ça ne va plus du tout.
C'était là pour la symétrie de la phrase. L'anglais aime bien les phrases symétriques.
Oui, mais c'est la librairie francophone.
Et donc voilà. Et donc il a une liberté qu'il a découverte à New York.
Oui, c'est ça.
En 61, où il est arrivé à 24 ans, donc assez tard. Il était pauvre, il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas voyager. Et puis il a pu acheter un billet d'avion pour 40 livres.
C'est ça.
Il a emprunté l'argent, il est allé à New York, il savait exactement pourquoi il y allait, parce qu'il voulait trouver un endroit où il serait libre. Et c'est à New York qu'il a eu son premier amant. Il régnait à New York l'art expressionniste abstrait, c'était vraiment l'époque de l'abstraction. Et là où j'admire David Hockney, c'est que c'est quelqu'un qui, entouré de grands peintres abstraits, a choisi de peindre figuratif.
Ouais, c'est
vraiment quelqu'un qui est allé à contre-courant, c'est quelqu'un de libre. Tout au long de sa vie, il est resté libre à explorer sans arrêt de nouvelles possibilités et de nouvelles formes.
Et tout jeune, il faut savoir qu'il n'a pas beaucoup de moyens. La famille est assez pauvre parce que son père a refusé de participer à la Seconde Guerre mondiale, vous imaginez. Donc du coup, en Angleterre, ils ont été mis comme ça de côté, ils ont été punis, donc sans argent, sans travail. Alors ce que fait David Hockney, c'est qu'il va dessiner dans les marges. Il va dessiner dans les livres qu'il trouve, dans les journaux, partout, avant cela même d'intégrer l'école des Beaux-Arts. Et alors, vous le dites, effectivement, c'est un homosexuel affirmé, qui a envie de s'affirmer. Il a du mal parce qu'on le rejette très jeune. Ses parents ne comprennent pas.
Ses parents ne savent pas.
Ils ne savent pas, en plus, puis après, ils ne comprennent pas. Et un jour, il rencontre un jeune homme de 22 ans, ouvertement homosexuel, et il dit « Voilà comment je veux vivre ».
Oui,
Tout part de là, il vous racontait cette histoire où, effectivement, l'homosexualité est très présente.
Rejetant le sentiment de honte. Pourquoi avoir honte ? Parce qu'on est différent. Et c'est ça, David Hockney. Et même plus tard, à 50 ans, alors ça n'a plus rien à voir, mais il découvre qu'il est sourd, comme son père était sourd. Et son médecin lui dit « Vous voulez un appareil à gauche ou à droite ?» Et il lui répond « Si j'ai deux appareils, j'entendrai mieux. » Et le médecin lui dit « Oui, mais enfin, normalement, on n'en porte qu'un, c'est plus discret. » Il dit « J'en veux deux. » Et il a peint l'un en rouge vif et l'autre en bleu vif.
C'est ça.
Donc voilà, il a dit « Pourquoi avoir honte d'être sourd ? Il n'y a aucune raison d'avoir honte d'être ce qu'on est. »
On va lire un extrait de votre livre, Catherine Cusset. C'est Marc Lévy qui a accepté de lire cet extrait sur la musique d'un groupe qui s'appelle Spanish Harlem. Et Spanish Harlem, c'est le quartier de New York dans lequel va se dérouler le prochain livre de Marc Lévy. Vous suivez ? Voici un extrait de Catherine Cusset avec d'abord la musique.
Il osa même dire à l'administration du Collège Royal qu'il ne voulait plus de grosses femmes laides de 40 ans qu'on leur proposait comme modèles. Manet, Degas et Renoir ne seraient jamais devenus Manet, Degas et Renoir s'ils n'avaient pas été inspirés par le modèle. Il exigea un homme et l'école, lasse de son insistance, finit par céder. Comme personne d'autre ne voulait peindre d'hommes nus, David embaucha pour son usage personnel, avec l'argent du Collège Royal, un garçon sympathique originaire de Manchester qu'il venait de rencontrer. Mo lui présenta deux amis qui devinrent bientôt les siens, Ossie et Célia, des étudiants en stylisme. Il eut une liaison avec Ossie, un garçon encore plus fou que lui qui couchait aussi avec Célia. Bisexuel, encore un nouveau concept. David vivait maintenant à Londres avec la liberté qu'il avait découverte à New York.
Merci beaucoup Marc Lévy pour cette lecture. Tout va très vite pour David Hockney, Catherine Cusset. On lui organise sa première rétrospective à l'âge de 32 ans. Il réussit très tôt, il se fait connaître très tôt. Ses piscines que l'on connaît, hein, il peint les piscines, les fameuses piscines comme ça, font un succès international. Mais à 36 ans, il est au bord du suicide. Et il part vivre à Paris. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Donc il a une rupture amoureuse qui, je pense, est la plus importante de sa vie, qui le laisse complètement brisé, attendant pendant 4 ans le retour de ce garçon dont il est amoureux. Mais ce qui est extraordinaire, justement, c'est que cet homme qui a connu le succès par ces tableaux dont vous parlez, les peintures iconiques que sont les doubles portraits et les piscines, quand il rompt avec Peter, il n'a plus envie de peindre ça. Et il arrête de peindre ce qui lui a donné le succès.
Et Peter, c'est son modèle et son amant, hein, et son compagnon.
Voilà, et je l'admire aussi pour ça. Finalement, le succès peut aussi être une prison. C'est magnifique le succès, mais ça peut aussi être une prison. Et lui est prêt à repartir à zéro et à recommencer et à essayer autre chose. J'admire.
On va laisser la parole à deux de nos libraires qui ont lu votre roman, Catherine Cusset, La France et le Canada. On va commencer avec vous, Jérémy Laniel, ici à Genève.
Oui, je ne connaissais pas le mythe de David Hockney et je crois que Cusset nous en sert ici un vibrant hommage. Si la grande popularité des biographies romancées commence à m'ennuyer un peu, ce qui est bien, c'est que Catherine Cusset sait écrire. Hein? Le style est nerveux, à vif, droit au but. Par contre, je trouve qu'il y a un petit surplus de détails, d'anecdotes dans ce roman qui aurait pu être évacué. Quitte à écrire un roman, j'aurais préféré encore plus de liberté, mais le livre se laisse lire à merveille.
Oui, sauf que l'artiste existe encore, il est encore vivant. Oui. Hein? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense de votre livre, vous le savez ou pas?
Alors, c'est une grande chance. Alors, il lit pas le français, mais je l'ai envoyé quand même à son assistant. Je n'ai jamais rencontré David Hockney. Et je dois dire que son assistant a adoré le livre et m'a dit que c'était le livre où David Hockney était le plus vrai et le plus vivant. Donc, vraiment, je suis très, très heureuse.
Ouais, sinon, il aurait interdit le livre.
Hein. Bah, je craignais. Hein, j'avais pris un avocat. Parce que j'avais peur que... Mais oui, j'avais peur que ce ne soit pas l'image de lui qu'il veuille donner. Ouais. C'est un artiste qui est très, très connu. Il n'a pas besoin de moi pour le faire connaître.
Sophie Todescato à Orléans, en France. Qu'en pensez-vous ?
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un très beau livre. D'abord, il est très accompli dans son ambition documentaire. Il donne envie de voir toutes les peintures de David Hockney et de ne pas s'en tenir aux trois que tout le monde connaît. C'est un livre qui m'a passionnée aussi par sa méthode, par la manière dont il est construit, vraiment avec les outils de la romancière, justement, et pas simplement de l'enquêtrice ou de la simple biographe. Et puis, l'écriture m'a semblé vraiment belle et, comment dire, empathique, véritablement empathique, c'est-à-dire qu'on est au plus près, on est très intimement proche de la singularité du mystère de cet artiste de Hockney et surtout de ce qui fait sa caractéristique, le désir de peindre.
Merci beaucoup Sophie. Tout lui semble facile aux États-Unis, Catherine Cusset, à chacun de ses voyages. Tout va très vite là-bas. Il passe son permis de conduire en une journée. Il y a une histoire incroyable que vous racontez. Il va dans des barguets, donc il a accès comme ça à des modèles masculins très facilement. Tout va très vite, Marc Lévy, à New York. Tout est facile en Amérique. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah non. Enfin, je suis d'accord que tout va très vite, mais tout n'est pas facile, au contraire. Tout est beaucoup plus difficile là-bas que ça ne peut l'être ici.
Qu'est-ce qui est difficile, par exemple?
En fait, ce qui est difficile, c'est que c'est un pays où il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection. Donc, tomber malade aux États-Unis, au-delà de la maladie, peut complètement vous ruiner. Tomber malade peut ruiner une famille. On appelle la loi du Far West. C'est un pays où c'est quand même chacun pour soi. Tout est plus facile dans la mesure où il y a beaucoup moins de législation, beaucoup moins de protection, beaucoup moins de règles. Mais le fait qu'il n'y ait pas de règles rend cette vie beaucoup plus périlleuse.
Alors dans votre nouveau roman, Événement, qui sortira le 22 mai, une comédie sociale, Marc Lévy, vous racontez la vie d'un immeuble à New York. Il y a une veuve joyeuse, un comptable maniaque, un couple de Français libertins, un couple américain puritain, celui-ci, une femme handicapée et Sanji, qui vient de Bombay d'ailleurs, Romain Pertolas, et qui sera liftier dans cet immeuble. Et ils vivent des vies comme ça, en croisement, en alternance, ils se croisent et vous montrez que ce n'est pas si facile que ça, la vie à New York aussi, dans ce livre, puisqu'on ne l'a pas encore lu, hein, il n'est pas sorti, il n'y a même pas les épreuves.
Le fil rouge du livre, j'ai eu envie d'écrire ce livre pour parler de la différence. Parce que on en parle assez peu de cette différence et je trouve que c'est un thème à la fois de vie et un thème de roman qui est assez passionnant. On se sent tous très différents quand on est enfant et la façon dont on va aborder cette différence qui fait notre singularité, je crois, va déterminer le cours de notre vie. Tout dans l'enfance va nous pousser à gommer cette différence, à l'effacer. Et pourtant, c'est cette différence qui est notre raison d'être. Et en fait, ce que le roman raconte... Alors, pourquoi l'immeuble de New York? Parce que moi, quand j'étais enfant et que je me promenais dans les rues, j'étais fasciné par les façades d'immeubles et je m'interrogeais tout le temps en me demandant qu'est-ce qui se passe, quelles sont toutes ces vies derrière ces fenêtres. Et ben, j'ai poussé la porte d'un immeuble et je suis rentré dedans. Et à l'intérieur de cet immeuble se retrouve toute une série de personnages, un liftier indien qui est arrivé à New York il y a 40 ans après avoir fui l'Inde, parce qu'en Inde, il n'avait pas le droit d'aimer la femme de sa vie parce qu'il n'était pas de la même caste. Une jeune femme qui n'est pas handicapée, mais qui est en fauteuil roulant, ce qui est pour moi très différent, parce que là aussi, le regard qu'on porte sur la différence, c'est que ça veut dire quoi être handicapé? Moi, j'étais myope comme une taupe quand j'étais gosse. J'étais handicapé. Je pouvais pas jouer au football. On me disait pas de moi que j'étais handicapé parce que je n'avais que des lunettes. Mais j'étais handicapé de plein de choses. Mais quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, on dit de lui qu'il est handicapé. Moi, j'ai rencontré dans ma vie des gens en fauteuil roulant qui étaient vachement moins handicapés que moi. Ouais. Donc, il y a le regard qu'on porte sur la différence de l'autre. Et en fait, c'est un livre que j'ai écrit avec une volonté délibérée qui est d'inciter les gens à regarder la différence de l'autre et à l'apprécier pour ce qu'elle est et non pas parce que justement elle peut heurter notre regard.
Alors justement, par rapport à l'identité new-yorkaise, vous dites que c'est un patchwork d'identité. Ici, on vous interdirait presque de gommer votre différence. C'est une ville de tolérance et de cohabitation, New York, vraiment. Comment New York vit l'Amérique de Trump aujourd'hui?
C'est mal. Elle la vit très mal.
Catherine Cusset.
Je dirais à deux niveaux. On est tous très tristes. Enfin, vraiment, il y a une vraie tristesse. Assez terrible. Quand on va à un dîner maintenant, on dit, au commencement du dîner, on dit, on évite le sujet, on n'en parle pas. On parle que de ça, en fait. On peut pas. On y revient tout le temps à Trump, tout le temps. À côté de ça, il y a les banquiers. Ils sont pas trop mécontents.
Bien sûr.
Ça va pas mal pour eux. Donc, je crois qu'au contraire, ça va très bien.
Mais c'est vrai que tout est fou à New York. Tout est métissé, Marc Lévy. Vous le rappelez. D'ailleurs, vous l'avez souvent dit dans des interviews. Vous vous souvenez du jour où vous voyez passer dans la rue des guerriers africains en pagne? Vous vous souvenez de cette histoire?
Oui, très bien.
Racontez-la en quelques secondes.
En fait, c'était peu de temps après que j'ai emménagé et je vais chez l'épicier du coin, qui est un épicier new-yorkais syrien. Et donc, je suis en train d'acheter, j'achetais des trucs. Et je vois passer dans la rue, sur le trottoir, deux guerriers africains en pagne avec un bouclier et une lance. Donc, je demande à mon ami épicier et je lui dis, c'est quoi ça? Et donc, il se retourne et il me dit, quoi? Déjà, le quoi, c'est-à-dire que lui, il les voyait pas. J'ai dit, quand même, là. Et il me dit, alors je me souviens plus de leur nom, mais il me dit, ça, c'est Georges et François. Enfin, avec des prénoms américains. Ah, je dis, d'accord. Il me dit, non, mais parce que c'est la fête nationale Hutu.
Ouais.
Et donc, en fait, ils sont en costume national parce qu'ils vont à une fête. Et en fait, ce qui m'avait marqué ce jour-là, c'est que moi, quand je les ai vus passer, je lui ai dit, c'est quoi ça? Et lui, il les a regardés, il a dit, ça quoi?
Oui, c'est ça, c'est normal. C'est
et
ça.
En fait, pour lui, c'était tout à fait normal. Voilà.
Et tout le monde fait ce qu'il veut à New York, tout le monde s'habille comme il veut, hein, vous le souveniez.
Oui, mais justement, ça n'efface pas la différence pour moi, justement, au contraire. On peut être exactement ce qu'on veut à New York.
C'était, en fait, leur différence l'interpellait pas plus que
absolument
ça.
Absolument pas. Mais on regarde pas les gens dans les yeux non plus.
Non.
Merci beaucoup à tous les deux. Catherine Cusset, vous pouvez applaudir, Vie de David Hockney. Aux éditions Gallimard. Magnifique livre, Catherine. Et puis, Marc Lévy, merci beaucoup d'être venu ici en avant-première. Votre nouveau roman, donc Une fille comme elle, sortira en librairie le 22 mai. Et on est sûr que ce sera encore une fois un grand succès. Vous êtes habitué maintenant.
On va toucher du bois.
Merci à vous. La librairie francophone avec Catherine Cusset, Marc Lévy, Romain Puertolas, Pierre Crevoisier et Sylvie Cohen qui nous rejoignent. On part au Sénégal tout de suite avec le groupe Orchestra Baobab. Et c'est le tube francophone de la semaine.
Bayran bo ñewul mu ñaan salima tay am ñay bo ñewul mu ñaan mbokk ndem am ngeenal nday ndaw ya mané lay lay la la bo ñewul mu ñaan sama né
ma min
lay lay la la lay lay la la
ma min ba fatema ko mu ñaan
ma min bala ke ful ma min ful ma min ba fatema ko mu ñaan
ma min
lay lay la la
Orchestra Baobab, Boule Mamine sur ici Radio Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires tous ensemble avec les coups de gueule et les coups de cœur ici au Salon du Livre de Genève. Jérémy Laniel, un coup de cœur pour le Canada.
Quatrième recueil de poésie de Natacha Canapé-Fontaine,
ah oui,
publié chez Mémoire d'Encrier. C'est tout chaud sorti des presses. Ça s'intitule Nanny Missouat, Île Tonnerre. On en a présentement à Genève. C'est un recueil qui aborde vraiment l'Île Tonnerre. C'est l'île où la meute de Natacha Canapé-Fontaine existe et elle nage vers nous, elle écrit vers nous, elle crie vers nous. Le poème est toujours pour une création de dialogue et la poésie de Natacha Canapé-Fontaine est essentielle dans notre paysage.
Et c'est aux éditions Mémoire d'Encrier, Natacha Canapé-Fontaine, qu'il faut lire absolument. Merci Jérémy. Sophie Todescato pour la France, vous poussez un petit coup de gueule à Orléans.
Oui, un petit coup de gueule contre un nouveau créneau qui est surexploité par les éditeurs pour la jeunesse, avec des parutions permanentes de livres autour des émotions des enfants. Alors il y a eu une brèche qui a été ouverte par un livre qui s'appelait La couleur des émotions, qui a eu beaucoup de succès, et maintenant c'est par Tombereau, c'est vraiment le filon sous toutes ses formes, des livres tactiles, des livres sonores, j'en passe et des meilleurs, mais qui ont tous vraiment le même tissu de banalité et d'affirmations normatives enfilées comme des perles. Vraiment, c'est à proscrire, c'est plus des livres, c'est des produits. Donc, un conseil, demandez conseil à votre libraire plutôt.
Exactement, voilà. C'est ce qu'il faut faire, demander conseil aux librairies indépendantes. Je rappelle que ce week-end, c'est la fête des librairies indépendantes. Merci beaucoup Sophie. Ici à Genève, en Suisse, un autre coup de gueule, toujours dans le rayon des livres pour la jeunesse, Laura Sanchez.
Mais oui, les interdits, ça suffit. Aujourd'hui, c'est permis. Dadi Barkat et Myriana Farkas chez Helvétique. Alors, la preuve, une fois de plus, que les éditeurs font des livres pour les enfants qui sont en fait pour les adultes. Alors les illustrations sont super, pas de problème, mais le sujet c'est les enfants, faites plein de trucs interdits et on va bien se marrer. Et moi, je ne comprends pas à quel enfant on va vraiment lire ce livre, en tout cas pas au mien.
C'est le coup de gueule d'une maman en fait, c'est ça?
En quelque sorte.
En quelque sorte, ok. On termine avec la Belgique, Déborah Damblon, un gros coup de cœur, plutôt inattendu d'ailleurs, Déborah.
Ah, n'est-ce pas, hein? Mais Emmanuel, reconnaissez, on s'est tous parfois dit que les lois c'était injuste, ou au moins que c'était incompréhensible pour le commun des mortels comme nous.
Oui.
Eh bien, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi nos sociétés, elles tomberaient dans le chaos sans les lois, eh bien, j'ai le livre qu'il vous faut, parce que c'est précis, c'est compréhensible. Ça s'appelle « Après la loi » de Laurent de Sutter, et figurez-vous que j'ai presque tout compris.
« Après la loi », c'est aux éditions Presse universitaire de France, dans la collection Perspective et Critique. C'est très sérieux. Merci beaucoup, Déborah. Et bonjour Sylvie Cohen.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Pierre Crevoisier.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir tous les deux. Nous allons parler d'une initiative très originale. Vous publiez Marin à l'encre aux éditions Slatkin. Pierre Crevoisier, vous êtes un journaliste et auteur reconnu en Suisse. Sylvie Cohen, vous êtes vous aussi journaliste et skipper. Vous sillonnez le monde avec un voilier nommé la Chamade. Mais vos voyages trouvent toujours un sens parce que depuis 10 ans, eh bien, prendre la mer... Chez vous, ça devient utile?
C'est pas de l'utilité, mais c'est l'envie de partager effectivement nos découvertes, de partager aussi nos voyages et aussi d'avoir le regard des autres. Et notamment quand on prend des artistes à bord avec nous, ça nous donne aussi une autre perception des choses, un autre regard.
Ouais.
Et comme on est curieux, eh ben, on aime bien avoir ça.
Alors, vous avez été en Écosse, au pôle Nord, aux îles Marquises, au Japon aussi, avec un projet éditorial ou un projet humanitaire en fonction. Vous choisissez?
Bah oui, on a commencé par donc essayer de promouvoir le don d'organes. Et puis ensuite, on a pris un sculpteur, on a pris un tatoueur qui est venu avec nous aux îles Marquises. Et puis comme ça, on change chaque fois qu'on peut. Ben on essaye aussi de mettre le pied à l'étrier à certains artistes.
Vous écrivez dans le livre en introduction, pour nous, naviguer, c'est découvrir, s'ouvrir à l'inconnu, aller à la rencontre de l'autre, que cet autre soit nature ou culture.
Bah oui. Tout est dit.
Sacré projet,
oui. Ah bah oui. Et c'est vraiment justement, le bateau permet aussi cette lenteur de pouvoir aller à la rencontre des autres, de pouvoir tricoter le temps comme on veut. Et ça, c'est magnifique.
Qu'est-ce que c'est tricoter le temps?
Tricoter le temps, ben, on peut le tricoter ou le détricoter.
Ouais. Alors comment on tricote?
C'est long, ça peut être long, ça peut être court. C'est comme on décide nous,
ouais,
en fait.
Ouais.
On n'est plus tributaire du temps, c'est nous qui décidons du temps qu'on veut faire et qu'on veut avoir.
On est tributaire de la nature.
De la nature,
de
bien
la
sûr.
De la mer.
Des éléments.
Des éléments, des conditions météo.
Absolument.
Tout ça, c'est ça, en fait. La nouvelle horloge du temps, c'est celle-ci.
Ça peut nous retenir pendant une semaine quelque part, ça peut nous faire aller très vite dans d'autres endroits, et c'est ça.
Vous êtes parti en 2017 en Alaska, donc, avec trois auteurs, Diane Pellin, Mathieu Berthaud et Pierre Crevoisier, qui est à côté de vous, qui ont écrit ou dessiné, d'ailleurs, parce qu'il y a un dessinateur, un auteur de BD, sur le bateau au cours de ce voyage. Ce livre, du coup, c'est une ode à la nature. C'est ce que vous vouliez, ça ? Rendre hommage à la nature avec des auteurs ?
Ah, nous, on n'avait aucune consigne pour les auteurs. Nous, on leur a proposé de venir avec nous, de vraiment s'imprégner de ces paysages extraordinaires, de ces rencontres extraordinaires qu'on fait aussi, parce qu'il y a des gens, ils sont tous un peu barjots, les gens qui habitent là-bas. Enfin, il y a quelque chose, c'est des gens extraordinaires.
Pourquoi ils sont barjots?
Ils ont des histoires incroyables, parce qu'il faut être un peu fou pour aller habiter dans des endroits comme ça.
Il faut des gens partout dans le monde, vous savez.
Non, mais ils sont extraordinaires. Oui. Et donc, c'est ces rencontres avec la nature, avec les gens. On leur a dit, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous inventez, c'est votre fantasme, vous faites tout ce que vous voulez. C'était libre à eux, on n'a rien imposé. Là.
Bon, on a lu votre recueil de nouvelles, du coup, et il y a Laura Sanchez face à vous, qui l'a lu à Genève aussi.
Oui, pour moi, il y a quelque chose de très sombre qui se dégage de ces nouvelles, et je dis ça positivement. Et puis, dans un deuxième temps, ce qui me frappe, c'est que vous nous parlez principalement de la toute-puissance, voire la force magique de la nature, comme on le disait. Et moi, je trouve ça toujours très réjouissant. Mais même si c'est le plus souvent au désavantage des humains, sauf peut-être dans la dernière nouvelle.
La dernière nouvelle qui est signée Pierre Crevoisier. On va en parler tout de suite, Pierre. Sur une île quelque part dans le monde, il y a un rendez-vous annuel avec tous les êtres vivants. Alors, c'est le congrès des choses vivantes, vous le nommez comme ça. Quand l'homme arrive, c'est une surprise pour tout le monde. Personne ne l'a vu, en fait. Personne ne le connaît, l'homme.
Personne ne le connaissait. Et il débarque comme ça.
Parmi les phoques, les baleines.
Parmi les phoques, les baleines, les arbres, les abeilles. Enfin, effectivement, c'est le congrès des choses vivantes.
Tout le monde parle.
Et on avait oublié, tout le monde parle, tout le monde se comprend. Parce que là-bas, ce qu'on comprend, c'est le silence de la mer et des éléments. Et puis, l'homme débarque alors qu'on ne le connaissait pas.
Et il y a un langage universel. Vous avez imaginé un langage universel.
Alors, c'est,
que l'on puisse communiquer avec les animaux.
C'est pas nécessairement un langage universel. C'est que tout le monde peut effectivement sentir.
Ouais.
On peut parler sans mots. On peut entendre avec le vent. On peut entendre avec le souffle des feuilles. Et cela, c'est aussi un langage.
Une question se pose, en tout cas, Pierre. L'homme appartient-il à la nature ? C'est ce que se demandent les animaux qui sont autour de lui.
C'est ce qu'il essaye effectivement d'imposer. Et on le met face aux contradictions que l'on connaît aujourd'hui. Je me suis longtemps posé la question. Et d'ailleurs, c'est la seule nouvelle que j'avais pas écrite sur place. Mais j'avais effectivement composé cette histoire sur place. J'avais pris des notes parce que j'écris pas sur le bateau. C'est plutôt mouvant.
Ouais.
Je me demandais, mais comment parler? On dit la nature est omniprésente. Mais c'est pas simplement un ode à la nature. C'est comment faire face, nous, en tant qu'humains, pour pouvoir être confrontés, pour pouvoir exprimer cette nature.
Et il y a l'arbre qui, contrairement à l'homme et aux animaux, n'a jamais tué pour subsister. Vous le rappelez, c'est vrai, du coup, on réalise, on se dit, mais c'est vrai que l'arbre, contrairement aux animaux et à nous...
Il ne s'est jamais nourri du sang des
jamais.
Autres.
Jamais, hein. Il n'a jamais de sang sur les mains, si je peux dire. Et il dira donc à l'homme, avec toi, le monde bascule. Parce que tu ne sais qu'une chose, être son centre. Plus tu vas grandir et inventer, plus tu penseras que l'univers entier est à ton service. Alors que chaque être ici a conscience de l'équilibre fragile dans lequel nous vivons tous, tu croiras en ta supériorité. Et donc c'est fichu d'avance, quoi.
Alors, il fait partie des choses vivantes, mais on le met à l'écart par les promesses ou les non-promesses qu'il a.
Catherine Cusset, vous avez l'air très attentive,
oui,
passionnée
très,
par
que,
ce sujet.
En fait, donc mon roman Vie de David Hockney, il évolue vers l'arbre, si je puis dire. David Hockney, si vous connaissez son travail, vous savez qu'entre 2003 et 2013, il a essentiellement peint des arbres. Et je me suis vraiment posé la question d'arriver à comprendre pourquoi. Et je pense que c'est un changement de point de vue sur l'univers. Avant, il le dominait, l'univers. Et quand il se met à peindre l'arbre, c'est une position d'humilité. Il regarde cet arbre qui finalement est là, qui sert l'homme, qui donne de l'oxygène, de l'ombre. Et il y a une sorte de grâce rendue à Dieu, de grâce très spirituelle.
Déborah Damblon, en Belgique, que pensez-vous de ces nouvelles suisses rédigées en Alaska, donc ?
Eh bien, j'ai été très, très, très impressionnée par leur force, par leur densité. Et puis, je trouve qu'elles réussissent vraiment le tour de force de l'ellipse. Et que, grâce à cette maîtrise, on sort de chacun des récits, mais nourris, mais comme après avoir lu un roman complet. Et puis, c'était un voyage, mais terriblement décoiffant pour moi, dans des contrées inconnues que, vraiment, j'aurais jamais pensé à aller visiter.
On va faire un petit exercice mental, Pierre Crevoisier. Depuis ce Salon du Livre de Genève, nous allons monter à bord de la Chamade. Fermez les yeux, Pierre. Imaginez-vous sur le bateau en Alaska. Remémorez-vous un moment unique que vous avez vécu sur place, ou un paysage, ce que vous voulez. Que voyez-vous ? Faites-nous partager ce qu'il y a autour de vous.
Alors, le moment qui m'a le plus impressionné, et je m'en souviens comme si c'était hier, c'est cette rencontre avec cette maman ours et ses deux enfants. On remontait la rivière, c'était d'ailleurs le premier jour de lumière et de soleil, parce que ce qu'il faut dire, hein, c'est que nous n'avons été envahis par le gris, par le brouillard, par la pluie, par la rudesse, etc. Et ce jour-là, pour la première fois, on voyait effectivement ce vert éclatant, etc. Et une rencontre magique, ouais. Une maman et ses deux enfants.
Qu'est-ce qui vous a étonné, vous, Sylvie Cohen?
C'était la deuxième fois qu'on allait en Alaska, donc, ouais. Mais les Aléoutiennes, on n'avait pas encore visité. Évidemment, c'est toujours l'impression d'être un petit grain de sable dans ces immensités. C'est quelque chose d'extraordinaire de se confronter à ça. Ça, c'est vraiment magique.
Bon, belle initiative. En tout cas, vous pouvez applaudir Sylvie Cohen et Pierre Crevoisier. Ils sont partis comme ça en Alaska pour ce livre « Marin d'encre, nouvelles d'Alaska » paru aux éditions Slatkin. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission spéciale au Salon du Livre de Genève. Je voudrais remercier le public tout d'abord. Merci beaucoup. Merci à vous, public suisse, pour votre fidélité sans faille. Je le sais, vous nous envoyez des messages, vous êtes très nombreux. Continuez comme ça, ça nous fait chaud au cœur. Merci à nos invités et à l'organisation de ce Salon du Livre et de la Presse de Genève, édition 2018.
La librairie francophone, Emmanuel Guérald.
Avant de conclure, la découverte francophone avec le groupe Ford Hackers et un extrait de Diane.
Yeah. Tu ne sais plus quoi dire, chasse tes souvenirs, et nous laisse effacer ton possible avenir. Perçois-tu l'illusion dans ce champ de vision? Réveille-toi, reconnecte ça, reconnecte-toi. Réveille ça. Connecte-toi, tu te mets à rêver, mais ne sais pas qui t'entraîne. Réveille ça, reconnecte-toi. Mais où t'es-tu perdu? Pourquoi tu ne brilles plus? Tu parles sans rien dire, ça c'est tes conneries. Et nous laisse regarder mourir ton génie. C'est le moment d'y croire, de comprendre, de tout voir. Réveille-toi, reconnecte ça, reconnecte-toi. Réveille ça, reconnecte-toi. Tu te mets à rêver, mais ne sais pas qui t'entraîne. Rappelle-toi, reconnecte ça. Mais où t'es-tu perdu? Pourquoi tu ne brilles plus? Rappelle-toi.
Ford Hackers avec Diane, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Un grand merci à la RTS pour les moyens techniques. Merci beaucoup Catherine Cusset qui est restée jusqu'au bout. Merci à vous. À la réalisation ici à Genève, Christophe Imbert avec Thierry Galechet et Eric Sogy. À la rédaction, Jean-Philippe Verret, Christophe Magère et Sophie Hoffmann en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin ici en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, trois invités étonnants et inattendus. Un cuisinier marocain, un illusionniste québécois et un pseudo-escroc qui a commis un braquage pour se créer une autre vie. Tout est vrai, vous serez surpris. À la semaine prochaine, bonne semaine, bon week-end.